À la suite d'RFI Midi, il est 14h à Paris, 8h à Port-au-Prince.
RFI Midi, Simon Bourtembourg.
Dernière demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et des Amériques. Et nous revenons dans un instant sur ce que l'on considère à Haïti comme l'une des pires attaques contre des journalistes. C'était le 24 décembre dernier à Port-au-Prince. Alors que l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti devait rouvrir officiellement, les balles ont fusé autour de l'enceinte. 5 journalistes présents pour couvrir l'événement ont été blessés, 2 autres tués. À suivre également le journal des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Et vous nous parlerez dans quelques instants de l'année Gaston Monnerville, officiellement lancée hier dans le cadre du jardin botanique de Cayenne en Guyane.
Un hommage qui vise à redonner toute sa place historique à l'illustre Guyanais, président du Sénat français bien sûr, de 1958 à 1968.
À Benoît Ferrand, à tout à l'heure. Et puis, en ce début d'année, nous évoquerons la situation de Cuba. À tragédie naturelle ou encore coupure d'électricité prolongée, 2024 fut cauchemardesque pour l'État insulaire des Caraïbes. Eh bien, 2025 pourrait ne guère être plus prospère. Nous le verrons avec Jeannette Abel, politologue et enseignante à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à Paris-Trois. Mais avant ça, un point sur l'actualité internationale. Et c'est avec vous, Karine Bellicha. Nous prenons la route de la Corée du Sud, où le scénario politique déjà chaotique a tourné au fiasco cette nuit.
La police n'a pas réussi à arrêter le président déchu, Yoon Suk-yeol, sous le coup d'un mandat d'arrêt. Accusé de rébellion pour avoir tenté d'imposer la loi martiale il y a un mois, il est toujours retranché dans sa résidence. Bonjour Carlotta Morteo.
Bonjour, bonjour à tous.
Pourquoi les enquêteurs ont-ils battu en retraite?
Alors rappelons d'abord que Yoon Suk-yeol est toujours protégé par le service de sécurité présidentielle puisqu'il n'est officiellement que suspendu de ses fonctions. C'est cette unité de police et de renseignement qui a fait obstruction à la justice ce matin. Selon les images des télévisions sud-coréennes, vers 7h, l'équipe d'enquêteurs du bureau chargé de la corruption des hautes personnalités a d'abord dû se frayer un chemin pour outrepasser la foule de partisans du président Yoon, massés devant la résidence des ultra-conservateurs, dont des youtubeurs d'extrême droite et des prédicateurs évangéliques bien connus, qui ont promis de tout faire pour le protéger. Une fois à l'intérieur du domaine, les enquêteurs ont constaté que les routes étaient bloquées par des véhicules, encadrés par la police, près d'une centaine quand même. Ils ont continué à pied, via des sentiers, pour atteindre la résidence où ils se sont retrouvés, selon leur propre témoignage, en infériorité numérique avec devant eux une chaîne humaine de 200 hommes de la sécurité présidentielle, dont des militaires qui se tenaient les bras pour leur bloquer le passage. Au bout de 40 minutes d'un face-à-face tendu, par crainte que ça ne dégénère, les enquêteurs sont partis.
Le président déchu a déjà ignoré 3 citations à comparaître.
Et oui, Yoon Suk-yeol est bien décidé à ne pas comparaître. Il l'a écrit dans une lettre mercredi, d'où ce mandat d'arrêt et de perquisition qui expire lundi prochain. Des groupes civiques et des membres de l'opposition ont déposé aujourd'hui une plainte contre le chef du service de la sécurité présidentielle pour entrave à la justice et abus de pouvoir. Lui invoque les pouvoirs étendus que lui confère la loi sur la sécurité présidentielle. Ce n'est peut-être que le début encore d'un long feuilleton qui ne semble pas s'arrêter.
Carlotta Morteo du service international d'RFI.
Aux États-Unis, ce vendredi, à la Nouvelle-Orléans, la vie a repris ses droits.
La rencontre du football américain du Sugar Bowl a eu lieu hier soir. Les terrasses ont rouvert, même si le traumatisme est toujours là. Le FBI a annoncé hier soir que l'auteur de l'attaque a agi seul après avoir rejoint le groupe État islamique. L'attentat a fait 14 morts et une trentaine de blessés. À ce stade, aucun lien n'a été établi avec l'explosion de Las Vegas. Le suspect retrouvé à bord d'une Tesla devant un hôtel Trump s'est suicidé. C'est un militaire, membre des forces spéciales, mais ses motivations sont toujours inconnues.
Les États-Unis toujours en période de transition avant la prise de fonction de Donald Trump le 20 janvier prochain.
Au Congrès, les élus de la Chambre des représentants doivent voter aujourd'hui pour logiquement maintenir à son poste de speaker le président actuel, Mike Johnson. Mais une poignée d'élus républicains ultra-conservateurs font planer le doute sur ce vote. Les explications de notre correspondant David Thompson.
Pour être reconduit comme speaker de la Chambre, Mike Johnson ne peut se permettre beaucoup de défections. Les Républicains ne disposent que d'une majorité de 5 sièges sur les démocrates à la Chambre. Problème, ils font une nouvelle fois étalage de leur dissension à l'approche du vote crucial d'aujourd'hui pour réélire Mike Johnson au perchoir. Cet ardent évangélique fidèle de Donald Trump a pourtant reçu le soutien du président élu qui le qualifie de bon, bosseur et religieux. L'élu de Louisiane est également soutenu par Elon Musk et pourtant, malgré ses soutiens de poids, le sort de Mike Johnson est encore incertain, car le speaker fait face à une fronde de plusieurs élus de l'aile droite du parti qui ne lui pardonne pas son accord budgétaire négocié avec les démocrates pour éviter un shutdown avant Noël et qui lui reproche des dépenses publiques trop élevées. Une bataille pour le perchoir n'est donc pas exclue. Il y a un an, Mike Johnson avait lui-même été élu après 22 jours de psychodrame pour succéder à Kevin McCarthy, destitué par l'aile la plus trumpiste et imprévisible des députés de la Chambre des représentants à Washington. David Thompson, Miami RFI.
RFI, 9h05 à Caracas, où les autorités vénézuéliennes sont prêtes à offrir une sacrée récompense.
$100,000 sont promis pour toute information permettant de capturer Edmundo González Urrutia depuis l'étranger. Le candidat de l'opposition à la présidentielle revendique toujours la victoire et a promis de revenir au Venezuela pour son investiture. Bien décidé à l'arrêter, la police a diffusé hier son annonce sur les réseaux sociaux. À Caracas, Alice Campagnol.
Sur la publication de la police scientifique vénézuélienne, les lettres sont blanches sur fond rouge et recherché y est écrit en gros au-dessus d'une photo d'Edmundo González à l'air patibulaire. Les crimes et délits dont il est accusé y sont énumérés et toute information concernant l'endroit où il se trouve, dit l'annonce, sera récompensée de $100,000. Après le mandat d'arrêt émis en septembre contre l'ancien ambassadeur de 75 ans, désormais exilé en Espagne, voici donc la nouvelle attaque des autorités contre le candidat de l'opposition qui affirme avoir remporté le vote du 28 juillet dernier. Mais c'est Nicolas Maduro qui devrait se réinstaller sur le siège présidentiel le 10 janvier prochain, malgré les protestations au cœur même de son pays et à l'international. L'opposition, pourtant très affaiblie après la répression sévère de ces derniers mois, promet un retour de González Urrutia pour prendre la tête du pays d'ici quelques jours. Une promesse qui semble difficile à tenir, tant les autorités vénézuéliennes sont en alerte. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Les autorités italiennes inquiètent quant au sort de la journaliste Cecilia Sala, détenue en Iran.
Elle est placée à l'isolement dans la prison d'Evin, là où beaucoup d'opposants du régime sont incarcérés. Le chef de la diplomatie italienne a convoqué l'ambassadeur d'Iran à Rome, Anne Lenir.
Cecilia Sala dort à même le sol dans une cellule gelée où la lumière est allumée constamment. Qui plus est, elle a été privée de ses lunettes et du colis apporté par l'ambassadrice d'Italie à Téhéran dans la prison d'Evin. D'où une réunion organisée en urgence par la première ministre Giorgia Meloni. Cette réunion a été concentrée sur le respect des droits et de la dignité de la journaliste et sur la demande de sa libération immédiate. L'affaire est d'autant plus complexe que plusieurs sources confirment le lien entre l'arrestation en Italie le 16 décembre d'un ingénieur iranien en vertu d'un mandat d'arrêt international émis par les États-Unis qui l'accuse de soutien à une organisation terroriste et celle de Cecilia Sala trois jours plus tard en Iran. De fait, entre la demande des États-Unis d'extrader Mohammad Abedini, celle de sa remise en liberté requise par l'Iran et la demande de libération de Cecilia Sala, aucune solution ne semble se dessiner. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et puis le premier conseil des ministres de l'ère Bayrou s'est tenu ce matin en France. Dossier prioritaire, l'adoption du budget pour cette année. Le gouvernement promet que l'objectif de déficit public sera établi en concertation avec les différentes forces politiques présentes à l'Assemblée.
Un journal signé Karine Bellicha. À tout à l'heure.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Un jour placé sous le signe de l'espoir qui a finalement tourné au cauchemar. Fermé depuis février dernier, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti devait rouvrir ses portes le 24 décembre dernier. Mais des hommes de la coalition des gangs Vivre Ensemble ont tiré sans discernement aux abords de l'hôpital général sur les journalistes qui étaient là pour couvrir l'événement. Deux journalistes et un policier ont été tués lors de l'attaque à Port-au-Prince, menée par ceux-mêmes qui étaient déjà à l'origine de la fermeture de l'établissement de santé. Peterson Luxama a recueilli les témoignages de ceux qui ont été touchés dans leur chair.
Quand je suis rentré à l'intérieur de l'hôpital, les balles fusaient dans toutes les directions.
Ce drame est incompréhensible. Personne ne peut réellement le saisir. Parfois, quand je raconte ce qui s'est passé, je suis obligé de me demander comment ai-je pu en sortir vivant.
Des témoignages, tous plus poignants les uns que les autres, les journalistes qui ont survécu au drame survenu à l'hôpital général racontent l'horreur. Arnold Junior Pierre, journaliste de Radio Galaxy, a frôlé la mort ce jour-là.
C'est une expérience que je ne demande pas à Dieu de revivre. Les balles ont sifflé pendant environ 49 secondes, sans s'arrêter. J'ai chronométré. Les balles partaient dans toutes les directions. Des gens se faisaient tirer dessus. Franchement, c'est une situation qui nous traumatise.
Arnold Junior Pierre doit sa survie à une femme qui l'a alerté de la présence des bandits tout près de l'hôpital.
C'est pendant que je me préparais à prendre une photo devant la barrière des urgences de l'hôpital, alors que je m'avançais, une dame m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Les gangs sont partout dans la zone. » Et je suis tout de suite rentré. C'est ce qui m'a évité d'être une de leurs victimes.
Une veille de Noël ensanglantée pour ces professionnels de la presse présents sur les lieux pour couvrir la réouverture de l'hôpital fermé depuis le début de l'année. Jephté Basile est reporter pour un média en ligne à Port-au-Prince. Il est loin d'oublier ce jour cauchemardesque. Il se souvient comment il a eu la vie sauve sous les balles des gangs.
J'avais vraiment très peur. J'étais totalement paniqué. J'appelais Jésus sans cesse pour lui demander de me protéger des balles. Des balles qui venaient de partout, dans toutes les directions. Et moi, je me trouvais au milieu. À ce moment-là, j'ai couru pour traverser à l'intérieur. J'ai enjambé le cadavre de Jimmy, l'un des journalistes tués, et je n'arrivais pas à identifier le corps de l'autre confrère.
Certains journalistes, eux, ont vécu la tragédie dans leur chair, à l'image de Rosemont, qui a reçu un projectile à la jambe droite. Aujourd'hui, lui et ses autres confrères reçoivent des soins à l'hôpital La Paix de Delma 33. Mais, dans sa tête, les souvenirs de ce 24 décembre restent vifs.
C'était un événement vraiment terrible. Quand les coups de feu ont éclaté, tous les journalistes ont commencé à courir. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un projectile au niveau de ma cuisse droite. Je suis à l'hôpital, on a pris soin de moi. Heureusement, je n'ai pas d'os fracturé, mais j'ai encore beaucoup de douleurs et des maux de ventre, de la fièvre aussi.
Et moi, j'ai une fièvre.
Parmi les autres journalistes survivants, Mathia Dovilmé, la journaliste de La Voix de l'Amérique, a fait preuve d'un courage exemplaire au milieu du chaos. Elle a improvisé des soins pour tenter de sauver ses confrères blessés par balles.
Quand j'ai vu qu'il y avait des journalistes blessés, je me suis dit que je devais me rendre utile, que je devais faire quelque chose. Mais je ne pouvais pas agir tout de suite car il y avait encore des tirs nourris et les balles tombaient même dans la cour de l'hôpital. Après un calme apparent, la première chose que j'ai faite avec un autre journaliste, ça a été de poser des garrots pour stopper l'hémorragie des blessures. C'était vraiment notre priorité à ce moment-là.
Voir ses confrères journalistes blessés et tués par des balles assassines sous ses propres yeux, un épisode malheureux que Matiado n'est pas prête d'oublier. Durant toute sa carrière de journaliste, elle affirme que c'est pour la première fois qu'elle a vécu un tel événement.
7 journalistes blessés sont arrivés près de l'endroit où je m'abritais. Je les voyais arriver, certains par leurs propres moyens, d'autres transportés. En plus, il y avait 2 cadavres. J'entendais les gens dire quand elle était morte. Moi, j'ai vu la mort en face. Je ne sais pas comment, mais pour une raison ou une autre, je suis sortie saine et sauve de ce drame.
Et le gouvernement, de son côté, n'entend pas laisser seules les victimes de ce drame. Une commission de suivi pour la prise en charge des blessés a été mise en place. Cependant, les journalistes s'interrogent quelles mesures concrètes seront adoptées pour garantir leur sécurité à l'avenir, notamment dans un contexte où couvrir l'information devient un véritable péril. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Un reportage que vous pouvez évidemment retrouver sur l'application RFI Pure Radio.
Le journal d'Haïti et les Amériques sur RFI.
RFI, 8h14 à Cuba, où ils ont été des milliers à manifester à l'appel du pouvoir devant l'ambassade américaine. Des rassemblements en décembre dernier pour réclamer la fin de l'embargo américain. Il faut dire qu'à Cuba, les craintes sont nombreuses sur le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Un retour à la Maison-Blanche qui pourrait impliquer un durcissement de la situation financière et migratoire de Cuba. 2025 s'annonce donc sous des auspices difficiles, alors que l'année qui vient de se refermer a déjà été cauchemardesque. Une année marquée par des tragédies naturelles, des coupures d'électricité prolongées et la lumière ne semble pas apparaître au bout du tunnel. L'économie cubaine reste en récession et sans perspective de reprise. Nous faisons le bilan de 2024 avec Jeannette Abel, politologue et enseignante à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à Paris 3.
Jeannette Abel, bonjour.
Bonjour.
Pour le président Díaz-Canel, 2024 a été l'une des années les plus difficiles pour Cuba. Comment évaluer l'état de délabrement dans lequel se trouve le pays aujourd'hui ?
Écoutez, délabrement, c'est la bonne expression parce qu'elle est presque insuffisante tellement la situation est grave, catastrophique, dramatique pour une large partie de la population. L'année 2024 a été d'abord marquée par des apagones, hein, on dit en espagnol des coupures de courant, comme on en avait rarement vu, et certaines qu'on n'avait jamais vues, puisque l'île est restée 2 ou 3 jours dans l'obscurité quasiment totale, après une interruption terrible qui est due à une chose. Le problème, c'est que les thermoélectriques sont maintenant trop vieilles. Elles ne sont pas entretenues par manque de pièces détachées et à cause de nombreux problèmes sur les infrastructures de l'île. Et vous comprenez que les habitants maintenant, il leur arrive souvent d'avoir 10, 12, 14 heures de coupure d'électricité par jour. Ce qui veut dire que les frigidaires, les congélateurs, quand il y a des coupures d'électricité aussi importantes, tombent en panne et que la nourriture pourrit avec. Or, la situation alimentaire pour une grande partie de la population aujourd'hui est faite de pénuries très importantes. Il y a eu 2 cyclones, un tremblement de terre qui ont aggravé encore la situation. Rappelons que c'est une île. Il n'y a pas qu'à Mayotte hein, que ça arrive et ça a provoqué des destructions à Cuba moins importantes qu'à Mayotte, mais très importantes. Donc si vous voulez savoir, voilà le tableau général qui est un tableau terrible et pire que celui que Cuba avait connu après l'effondrement de l'Union soviétique.
Et quelles sont les raisons de cette situation ?
Il faut comprendre qu'il y a 2 raisons qui expliquent cette situation de l'île. La première, c'est quand même qu'il ne faut pas oublier que ça fait 60 ans que les sanctions économiques nord-américaines appliquées à Cuba ont des effets catastrophiques hein, qui perturbent tous les échanges monétaires en dollars parce qu'ils ne sont pas possibles, qui perturbent aussi le fait que les bateaux, s'ils accostent à Cuba, ne peuvent pas accoster aux États-Unis. Le fait que, y compris dès qu'il y a même 5% de produits américains dans une importation, aussitôt les sanctions s'abattent. Enfin, on peut continuer. Donc, il faut commencer par dire ça, parce que ça, c'est absolument dramatique pour le pays, sans oublier le caractère extraterritorial des lois américaines, des sanctions américaines qui s'appliquent aussi, y compris à des banques françaises. La BNP a payé 8 milliards pour avoir eu des échanges monétaires avec Cuba. Ça, c'est la première des choses à dire. La deuxième, c'est évidemment que cette situation résulte aussi de la politique économique qui est menée par le gouvernement. L'effondrement de l'URSS a conduit le gouvernement à une politique économique qui a privilégié pour le tourisme, et le tourisme dans des proportions très importantes. Ce choix prioritaire sur le tourisme est contesté. Il y a un débat, une contestation très importante en ce moment. On demande des explications à ce gouvernement pour quelles raisons, actuellement, ces investissements continuent à se faire sur la construction de l'hôtel, ils sont en partie vides, et pourquoi les investissements, notamment dans l'agriculture, mais pas seulement, y compris dans d'autres secteurs qui auparavant étaient remarquables, comme la santé et l'éducation, pourquoi tout ça diminue ?
Vous dites que l'État cubain met l'accent sur le tourisme, mais récemment, le gouvernement a parlé d'économie de guerre. Qu'entend-il par là ?
Ben, si vous voulez, c'est pas clair ce qu'il entend par là. Une économie de guerre veut dire que le rationnement actuel que subit et les difficultés actuelles que subissent les Cubains vont continuer en 2025. C'est ça que le Premier ministre a annoncé et c'est ça que Díaz-Canel, parce qu'il y a eu une séance de l'Assemblée nationale, de fin d'année ont annoncé, parce qu'ils ont en partie, c'est vrai, le couteau sur la gorge. C'est-à-dire qu'entre l'inflation, entre cette inflation galopante, l'arrivée de Trump, qui risque d'aggraver encore plus les sanctions qui leur sont imposées, bon, et le fait de ne pas disposer des ressources dont il disposait en partie auparavant, va aggraver la situation.
Dans quel état se trouve l'opposition cubaine et quelle est sa marge de manœuvre ?
Alors, l'opposition cubaine, traditionnellement, a quand même été très limitée. Je considère que jusqu'à, peut-être pas jusqu'à la mort de Fidel Castro en 2016, mais pendant de très très longues années, pendant plusieurs décennies, cette opposition était très minoritaire. Pour une raison, c'est que l'opposition, la dissidence cubaine, s'est toujours plus ou moins identifiée, en tout cas liée, à la diaspora cubaine qui est aux États-Unis et qui est une diaspora très hostile au gouvernement cubain. Ça, c'est pour le passé. Ce qui change avec la situation actuelle, c'est qu'évidemment la crise renforce l'opposition, et pas une opposition, plusieurs oppositions, des oppositions politiques, de courants politiques différents. Il y a un énorme découragement maintenant dans la population. Il y a eu des manifestations, alors en 2021, il y a eu des manifestations très importantes contre le gouvernement, protestant contre les pénuries, mais même cette année, au mois de mars, et dans plusieurs, y compris dans certaines banlieues de la capitale, qui est toujours un peu favorisée par rapport au reste du pays, on a eu des manifestations, des casseroles rôle traditionnel en Amérique latine de protestation, bon, et ça continue, et ça va tout vraisemblablement continuer. En plus, il y a un exode, on estime qu'il n'y a pas loin de 1 million de Cubains qui sont partis, qui ont quitté le pays, et donc l'opposition prospère sur ça, elle se développe, et je répète, il y a plusieurs courants politiques d'opposition d'ores et déjà, et c'est une opposition qui est beaucoup plus importante. Alors, quelle est l'issue de tout ça? Je n'en vois pas beaucoup. Positive, je n'en vois pas beaucoup à court terme, mais ce qu'on peut craindre, c'est une crise effectivement plus grave, y compris une crise de régime.
Vous l'évoquiez, Donald Trump fait son retour à la Maison-Blanche en janvier. Que faut-il attendre de sa nouvelle administration vis-à-vis de Cuba ?
Écoutez, sauf surprise, qu'il n'apparaît pas envisageable à l'horizon, on peut attendre le pire, parce que le secrétaire d'État américain nommé par Trump, secrétaire d'État, c'est le responsable, le ministre de la politique étrangère, s'appelle Marco Rubio. C'est un fils de, c'est un cubano-américain, un fils d'exilés cubains, qui est d'une violence à l'égard de Cuba qui dépasse à peu près presque tout ce qu'on a pu entendre de la part de responsables nord-américains auparavant. Et c'est lui qui est responsable de la politique étrangère maintenant. Donc on peut craindre le pire. Et le pire, c'est qu'il laisse tout simplement le pays, l'île, peu à peu, s'effondrer.
Il y a 10 ans, presque jour pour jour, les États-Unis reprennent des relations diplomatiques avec Cuba sous Barack Obama. Que reste-t-il de cette politique d'ouverture ?
C'est Trump qui a succédé à Obama. Et Obama, c'était une politique effectivement tout à fait différente. Mais, et y compris, il avait supprimé l'inscription de Cuba sur la liste des États terroristes, que Trump a remis, et ça, on n'imagine pas les conséquences incalculables que ça a. Si vous voulez, un pays qui est sur cette liste-là, enfin, il y en a quelques autres, la Corée du Nord, il y a l'Iran, mais bon, est un pays, sauf que eux, la Corée du Nord, comme l'Iran, comme vous savez, sont des pays d'une puissance économique incomparable et qui sont en plus aidés par, notamment par la Russie et par M. Poutine. Malheureusement, le président Biden, qui s'était engagé à plus ou moins lever certaines des sanctions, il n'en a pas fait, il les a même en partie. Enfin, il en a levé quelques-unes mineures et il en a renforcé d'autres.
Et enfin, aujourd'hui, qui sont les alliés de Cuba ?
Ben écoutez, il n'y en a pas beaucoup, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, si vous faites abstraction du Mexique, du Venezuela, la Russie de Poutine, les Chinois de la Chine, qui sont d'abord des hommes d'affaires, hein. Donc, il ne faut pas de cadeaux, pas beaucoup de cadeaux. Eh ben, il n'y a pas grand monde. Voilà.
Jeannette Abel, merci beaucoup.
Merci.
Jeannette Abel, enseignante à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à Paris 3. Elle répondait aux questions de Lila Olkinoura. Un point sur l'actualité des Caraïbes, à présent avec le journal des Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Simon.
À la une de votre édition, l'année Gaston Monnerville officiellement lancée hier dans le cadre du jardin botanique de Cayenne en Guyane.
Organisé par la Société des Amis de Gaston Monnerville, cet hommage vise à redonner toute sa place historique à cet illustre enfant du pays, devenu dans les années 50 et 60 le troisième personnage de l'État. Le reportage est signé Sophie Donznac.
Les dieux des cieux sont cléments pour Monnerville. C'est ainsi que Georges Patient a introduit son discours. En effet, en pleine saison pluvieuse, pas une goutte n'est venue perturber cet hommage solennel à l'occasion des 128 ans de Gaston Monnerville. Près de 80 personnes se sont réunies en fin d'après-midi sous des tentes installées juste face à son buste, dressé au jardin botanique. Sous le chant des haras jaunes et bleus qui saluent certainement eux aussi la mémoire de ce grand personnage de l'histoire française, plusieurs allocutions, Rodolphe Alexandre, docteur en histoire dont la thèse portait sur Gaston Monnerville, Sandra Trochimara, maire de Cayenne, Emmanuel Prince, vice-président à la CTG. Tous disent d'une même voix qu'il faut le sortir de l'oubli, de cette ignorance. Un homme qui a su démontrer des qualités à tous les postes à responsabilité qu'il a occupés en Guyane comme dans l'Hexagone. Sa presque absence des manuels scolaires est inexplicable. Ce petit-fils d'esclave, comme il aimait à dire, est un incontournable de la politique française. En 2025, tous militent encore, après des dizaines de demandes, pour sa panthéonisation.
Né le 2 janvier 1897 à Cayenne, décédé en 1991 à Paris, Gaston Monnerville a notamment, bien sûr, présidé le Sénat de 1958 à 1968. Direction la Guadeloupe, avec un sujet très différent, l'activité touristique qui se porte plutôt bien, malgré la concurrence de toutes les autres îles de la Caraïbe. Écoutez par exemple la satisfaction d'Assata Doumbia, elle est la directrice du parc des Mamelles.
C'est une très belle fréquentation, il faut dire qu'on est rentré en période de haute saison, donc c'est normal. Mais c'est vrai qu'on est agréablement surpris, les visiteurs sont au rendez-vous. Sur le parc, c'est variable, ça va être selon la météo, etc. Mais voilà, on fait à peu près 100 000 visiteurs, un peu plus de 100 000 visiteurs à l'année. Ben, que ça continue comme ça, voilà. Et ce qui est de mieux en mieux, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de Guadeloupéens aussi qui viennent de plus en plus aux eaux.
Là où avant, c'était surtout une clientèle touriste.
Voilà, plutôt touristique. Et là, maintenant, ben, les Guadeloupéens visitent, les Martiniquais aussi. On a énormément de Martiniquais. Donc, c'est parfait.
Le parc des Mamelles, pour ceux qui ne le sauraient pas, et son zoo se trouve sur le territoire de la commune de Bouillante. C'est sur la côte ouest de la Basse-Terre de la Guadeloupe. Bon après-midi, bon week-end, Simon, à lundi.
Merci beaucoup, journal des Outre-mer, avec vous donc Benoît Ferrand. On referme maintenant cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et des Amériques en musique avec Joey Douette-Filé, le chanteur haïtien qui a sorti l'année dernière le titre « Quatre Campé ».
Ça vient dans le crétin, y'a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'épouse, c'est money, pay me. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Baby, je l'étale, vini. Da, da, da. Vini, vini, pas timide. Da, da, da. Drive en Lamborghini. Da, da, da. J'ai nous sous sa campé. Da, da, da. Bamele, bamele. Da, da, da. Full BBL, baby. Da, da, da. Bamele, bamele. Da, da, da. J'ai nous sous sa campé. Da, da, da. J'suis devant chanté. Da, da. Capis a pu les compter, je remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y'aura trop de débats. Allez, trop de talent. Depuis le vent de rose. rose, il y a trop tard. Juste Mané m'a dit je t'aime, mais c'est trop tard. Si cette bitch m'a dit je t'aime, mais c'est trop tard.
À 4 campé de Joé Douette Filet, issu de la playlist RFI. C'est ainsi que se referme cette édition d'RFI Midi. À la préparation et à la réalisation, Olivier Roux, Michael Ponge et Jacques Alix. Merci à vous d'avoir été avec nous. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde. Votre prochain journal, c'est dans 30 minutes.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les capacités de leur milieu naturel, c'est le principe de l'agroécologie. Une méthode reconnue par tous, nous vous emmènerons à Cuba, mais une méthode qui a du mal à se développer, nous vous expliquons pourquoi avec notre invité.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.